Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio. Nous sommes en direct, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voici votre émission chaque jour du lundi au vendredi. Vous pouvez réagir à l'actualité, nous faire part de vos analyses, de vos témoignages sur les sujets qui vous concernent, et cela en toute liberté. Aujourd'hui, dans le JDA, nous parlons de l'État islamique qui revendique une attaque en RDC dans un message diffusé sur son agence de propagande Hamak. L'État islamique a revendiqué jeudi dernier sa toute première attaque armée à Beni, dans la province du Nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda. Alors, cette revendication vous inquiète-t-elle et comment interpréter et analyser cette revendication? Je vous donne le numéro WhatsApp pour participer, c'est 33 7 66 19 77 69, 33 7 66 19 77 69. Vous pouvez nous envoyer des messages ou demander à ce qu'on vous rappelle le numéro, sinon du standard, je vais le donner aussi, c'est le 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Avant de vous écouter en direct et de parler de la RDC, voici la séquence incontournable du JDA, le répondeur d'Africa Radio.
Africa, vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio, après le bip, c'est à vous.
Quel est cet avertissement? Il n'y a pas les désinformations. Il n'y a que la réalité. Amis auditeurs, bonjour. Le lundi passé, effectivement, vers 18h, 19h, 20h par là, quand on voyait le flamme cathédrale brûler, moi, dans ma tête, je voyais déjà que l'Afrique sera ruinée. Je ne voyais déjà que l'Afrique sera ruinée. Parce que c'est là maintenant tous les chefs d'État. Ils vont se mettre en rang pour prendre tout le budget du pays. Ils ne peuvent même pas travailler ça sur leur pays. Ils vont venir donner ça à la France. Pourtant, la France n'a pas besoin de ça. La France n'a pas besoin de ça. C'est pas possible. Pourtant, on n'est même pas mis de l'eau à boire dans notre pays. On n'est même pas. Il y a des endroits, il n'y a même pas route pour avoir assez. Est-ce que la France a besoin pour l'argent? Oh bon Dieu. Vous faites pitié, hein? Vous faites pitié. Sincèrement, vous faites pitié. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Les attaques diffamatoires. Oui, mais puisque vous êtes menacés, vous êtes obligés de dire. Oui, et en plus, amis auditeurs, bonjour, c'est encore moi. Tout dernièrement, Djibouti, il y a eu inondation. Aucun pays africain qui s'est manifesté pour donner même simplement 100 000 francs CFA, même 100 000 Sidi, même 100 000 Naira. Pour donner à Djibouti, pour que ils puissent, ceux qui ont été initiés, pour que ils puissent se débrouiller avec sa personne. Tout dernièrement, il y a eu au Mali, dans un village, il y a eu 100 et quelques personnes ont été massacrées, morts. Personne. Aucun chef d'État africain. Personne.
Bonjour, amis auditeurs, c'est Guillaume de Beng. Je me réjouis aujourd'hui, et je dis merci à tous ces artistes ivoiriens qui chantent pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, y compris toutes les autorités politiques de tous les bords, que ce soit de l'opposition comme du parti au pouvoir. J'aimerais que nous sachions tous que nous n'avons qu'un seul intérêt, c'est la Côte d'Ivoire, et encore permettre au président de la République de mener à bien tous ces chantiers et de visser encore la Côte d'Ivoire au rang du premier au niveau de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi même pas même de l'Afrique. Merci à vous, chers auditeurs. Sayo Modébeng. Merci à vous.
Bonjour, auditeurs d'Africa Radio. Je voulais juste attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passe en Guinée. Ils se mettent à arrêter même des enfants, pratiquement, pour ainsi dire, des gens de 13, 14 ans, simplement parce qu'ils ont en main un papier disant non au troisième mandat. Et ceux qui manifestent ou qui prennent des pancartes pour se marquer non au troisième mandat, ils se font arrêter. Il n'y a aucune base légale. Voilà, c'est pire qu'au Burundi, quoi. Et malheureusement, l'opposition est devenue frileuse depuis qu'ils ont sommé à tirer sur les leaders de l'opposition. Bon, l'opposition guinéenne est rentrée dans ses gongs et c'est retranché, elle a peur. Et c'est dommage. Là, on va se diriger vers un régime à la burundaise bientôt. Et malheureusement, bon, le Guinéen a toujours été. Les Guinéens et les Togolais, malheureusement, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas d'opposants vraiment de la hauteur. Dommage. Merci.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui. Dans le JDA, l'État islamique revendique une attaque en République démocratique du Congo. Dans un message diffusé sur son agence de propagande, c'était jeudi dernier, l'État islamique a revendiqué sa toute première attaque armée à Beni, dans la province du Nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda. Alors, selon la revendication postée, l'État islamique, trois soldats congolais, selon la revendication postée par l'État islamique, trois soldats congolais auraient été tués et 5 blessés lors d'une attaque d'une base de l'armée. Nous en parlons tout de suite avec Rodriguez Katsouva, journaliste blogueur pour le site Habari RDC. Rodriguez Katsouva, bonjour.
Bonjour Stéphanie Atman et bonjour à tous les fidèles de l'émission.
Merci beaucoup d'être avec nous, d'être venu jusqu'à nous en ce lundi de Pâques, mon cher Rodriguez. Alors je le disais, selon la revendication postée sur le site de la propagande de l'État islamique Hamak, 3 soldats congolais auraient été tués et 5 blessés lors d'une attaque d'une base de l'armée congolaise à 5 km de Kamango, dans la région de Beni. Et selon l'agence de presse Reuters, qui cite des choses onusiennes, il y a bien eu, mardi dernier, à Bovata, plutôt, un affrontement avec des rebelles ADF qui a tué 2 militaires et 1 civil congolais. Première question, Rodriguez Katsouva, à plusieurs reprises, des responsables de l'ancien régime, sous la présidence de Joseph Kabila, dont le ministre, Lambert Mende, avait assimilé régulièrement les rebelles ougandais de l'ADF au terrorisme islamique, sans pourtant en apporter des preuves. Est-ce que finalement, cette revendication vient confirmer les liens entre l'ADF et le terrorisme international?
Alors, Stéphanie Hartmann, moi je reste très dubitatif par rapport à cela. On sait que depuis 2016, l'État islamique ne cesse de faire de fausses déclarations, de fausses revendications d'attaques. Et donc, il faut rester très, très, très prudent par rapport à cela. Par contre, il y a un rapport l'année dernière qui a montré que le groupe ADF, en fait, s'était rebaptisé MTM. Ça fait beaucoup de bruit. Donc, c'est Madinat At-Tawhid Wal-Mahwahidin. Genre, en français, pour dire un peu.
La cité des monothéistes et des guerriers saints, c'est
voilà,
bien ça?
Voilà, exactement, c'est là. Donc, ils se sont rappelés ainsi. Et nous, on a pensé pendant longtemps que c'était une façon pour le gouvernement congolais de justifier son échec, parce que lors de la défensive, quand l'offensive elle a commencé, le ADF c'était un petit groupe de entre 100 et 200 individus. Ils vivaient là-bas depuis longtemps, les ADF. Moi j'ai été dans la forêt de Kamango pendant 2 mois, on cultivait, c'était vers 2009, et ils étaient avec la population, ils ont eu des enfants avec les populations, ils chassaient et vendaient, ils étaient pacifiques, ils étaient là depuis 20 ans parce que Mobutu voulait avoir un contrôle sur l'Ouganda, donc il entretenait cette milice là et quand Mobutu est parti, ils sont restés. Alors on les a défaits avec les attaques du général Bahouma, paix à son âme, pendant les 4 mois d'offensive, et le groupe a été séparé. D'accord. C'est après maintenant qu'on a découvert qu'ils avaient ils étudiaient l'islam. Jamil Mukulu a été attrapé quelques temps après, il a été attaqué en Ouganda. On a pensé qu'il était en train d'essayer de créer des liens avec Al-Shabaab. Ce qui est sûr, c'est qu'un groupe armé qui a été défait, c'est normal qu'il recherche sûrement l'appui de l'État islamique pour se faire de l'argent, parce que le groupe n'avait plus de substance en soi. Mais comment comprendre que l'État islamique vienne le faire qu'aujourd'hui, alors que ça fait 5 ans qu'on est en train de tuer des gens? C'est juste aussi après que le président Félix Tshisekedi...
Est-ce que c'est pas opportuniste aussi pour l'État islamique qui finalement est défait, se retrouve défait un peu au Moyen-Orient, en Syrie...
Exactement, c'est sûrement ça.
Et en Irak,
à 70%,
qui voit ici en RDC des alliés finalement.
Ouais, à 70% ça c'est là. Parce que imaginez, Félix Tshisekedi a été aux États-Unis il y a 2 semaines, et là il a dit qu'il allait joindre aux efforts des États-Unis. Je pense que c'est parmi les éléments qui ont fait que l'État islamique sache qu'il y a un groupe au Congo qui se clame d'être deux, et voilà, ils en ont profité. Moi, pour moi, c'est exactement opportuniste.
Donc, on va aller peut-être dans le détail un peu plus tard dans l'émission. Je vous donne le numéro, chers auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Profitez-en, c'est peut-être férié pour certains d'entre vous. Voilà, ça vous donne peut-être plus l'opportunité de nous appeler. Avant d'écouter Jean-Louis Benga, on va retrouver Yaya Fongbe à Abidjan. Yaya, bonjour.
Bonjour.
Yaya. Alors, quel regard vous portez sur cette revendication hein, de l'État islamique en République démocratique du Congo?
Cette revendication, je ne crois pas trop. Je me demande si c'est pas l'ancien pouvoir qui essaie de manipuler un peu les conflits entre les nouveaux gouvernements et les anciens barreaux au pouvoir. Parce que c'est vraiment dit ça, cette affaire des djihadistes au Congo. Je ne crois pas trop à ça.
Alors la ligne n'est pas très bonne, Yaya. Je ne vais pas vous prendre longtemps, Yaya. Je m'en excuse, mais la ligne n'est pas très bonne et on ne va pas comprendre. Vous attendez, Yaya Fombé qui dit finalement voilà, des islamistes au Congo, j'y crois pas vraiment. Est-ce qu'il y a un terreau la République démocratique du Congo est un pays majoritairement
laïque. Il n'y a pas d'oppression des musulmans. Il n'y a aucune raison pour que l'État islamique puisse venir.
Ben,
après, oui, c'est la majorité catholique, mais après, les musulmans représentent entre 10 et 15% de la population.
D'accord.
Et c'est la deuxième plus grande représentation chrétienne, disons, la plus grande croyance. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'est pas complètement exclu que les groupes a essayé de se radicaliser, que le groupe ADF, ils ont essayé d'attirer de l'attention, de se faire des financements, parce qu'on a arrêté d'ailleurs un Kenyan qui était en lien avec eux, et il y a même des rapports des États-Unis, qui font référence de l'argent de l'État islamique qui a été transféré en Afrique centrale. Donc on pense bien que ces groupes a essayé peut-être de se faire voir au niveau de... Parce que le Congo, c'est moins contrôlé, c'est loin de toutes les bases américaines, je pense que ce serait, après les ADF, ils sont là depuis 25 ans, ça serait plus facile d'avoir des bases là-bas. On croit que voilà, ils ont pensé sûrement que ce serait une opportunité. Et on a eu des vidéos où ils donnaient des leçons en disant si vous mouriez pour nous, l'Allied Democratic Forces, vous irez au CIE, vous trouverez 70 vierges qui seront là pour vous. Donc c'est presque le même enseignement qu'on donne dans les camps de formation de ces terroristes, mais on ne croit pas que ce soit vraiment, vraiment lié. C'est un groupe d'opportunistes qui ont essayé de mettre ça et l'État islamique essaie d'en profiter. Donc, très peu de Congolais y croient, même si ça vient étayer une thèse que l'armée congolaise avait déjà dénoncée depuis très longtemps.
C'est très clair, merci Rodriguez Katsuva. Et pour aller dans votre sens, hein, le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, hein, selon ce groupe d'études, les ADF ont fait plusieurs tentatives pour se rallier à l'EI. Et en octobre dernier, hein, finalement, l'État islamique a diffusé une vidéo contenant un appel à l'Hijra, la migration des soldats du califat vers le Congo. Et appel lancé par une faction armée MTM, c'est la faction dont vous parliez tout à l'heure, et sigle hein, que l'ADF a rajouté à son drapeau ces dernières années. Sur Facebook, quelques messages. Tierno qui dit « Je suis très surpris de voir la RD Congo aussi tomber sur cette histoire de terrorisme comme le Burkina Faso. À chaque fois que les dictateurs tombent, il y a des conséquences négatives après leur départ. » On peut dire ce qu'on peut dire, Rodriguez, c'est que cette question hein, des ADF et des groupes armés était déjà présent hein, avant le départ de Joseph Kabila de la présidence.
Bien sûr, les ADF sont là depuis 25 ans maintenant. Et comme je l'ai dit, c'était un groupe, Mobutu a essayé d'avoir un groupe pour mettre pression parce que Mobutu était le leader de tout ce temps. Et vers 2013, les ADF ont commencé à kidnapper des habitants parce que c'est là que l'armée a dû... On venait de faire les M23, l'armée était forte, donc le feu Mamadou Ndala, très, très bien réputé au pays, est parti à Beni et il a lancé des messages « ADF, vous vous rendez ou alors vous serez battu ». Donc après quelques mois, il a été malheureusement assassiné et quelques mois après, l'attaque a été lancée par Feu Bahouma. C'était une grande force qui a battu les ADF et ils ont été saccagés. Le problème des ADF, c'est qu'il faut comprendre à Beni, c'est qu'on met tout sur le dos des ADF. Donc il y a plusieurs types d'attaques qui des fois n'ont rien à voir, mais on dit c'est ADF. Et c'est ce qui est très dommage parce qu'on est en train de couvrir tout ce qu'il y a comme attaque aux ADF.
D'autant que la région de Beni a été la cible depuis 2014 de nombreuses attaques. Alors justement, vous l'avez dit, hein, on aurait tendance à attribuer toutes ces attaques aux ADF. C'était en septembre 2017 pourtant. Un communiqué du général-major Léon-Richard Kasonga de l'armée congolaise a indiqué que les tueries de Beni étaient plutôt l'œuvre d'une coalition terroriste internationale, alors que le groupe d'études sur le Congo, dans le même rapport hein, cité tout à l'heure, évoquait plutôt éventuellement une complicité des FRDC. Est-ce qu'on sait qui est responsable des massacres à Beni ou est-ce qu'on peut estimer qu'il y a plusieurs responsables de ces massacres.
Alors personnellement, et ça, ça m'engage moi, et je trouve que c'est la thèse la plus plausible, il y a plusieurs groupes qui attaquent. Et je pense que je l'ai déjà dit dans une émission ici sur Africa numéro 1, les populations, elles, ils ont été dans une mission en 2016, en mai. Des députés sont allés à Béni pour parler à la population. Des députés nous ont parlé à huis clos. Ils sont restés plusieurs jours là-bas et on a identifié 6 groupes. Il y a certainement des résidus des ADF qui sont fâchés contre les peuples qui font de vendetta, donc de revanche, parce que des populations les avaient trahis. Des populations avaient trahi leur position. Il y a un groupe d'un général Tutsi, Bisambaza, qui était là et qui a fait défection avec quelques centaines d'hommes. On dit qu'il est parti en Ouganda, mais il n'y a aucune preuve. Mais après, il a ses hommes qui étaient restés dans la brousse. Mmh. Et des populations, certains rescapés, disent qu'il y est là. Il y a 4 autres groupes qui ont été identifiés. Et il y a aussi des brebis galeuses, des FARDC, qui ont été, elles aussi, malheureusement, aussi impliquées dans certains massacres. Donc, ça veut dire qu'il y a c'est 6 groupes différents selon la population. Et moi, je crois à cette thèse-là. Je ne crois pas que ce soit les ADF qui aient pu faire ça eux-mêmes. Donc, du coup, c'est cette nébuleuse-là qui était difficile et que l'armée aussi, malheureusement, il y a certains généraux qui étaient même punis. Il y a eu des procès qui détournaient l'argent. Les policiers sont, les militaires sont mal payés. Les militaires, enfin, les militaires sont là-bas depuis plusieurs années. Et heureusement que le président Félix Tshisekedi vient de décider qu'on puisse rélever ses troupes. Comment imaginez-vous que quelqu'un qui est là depuis 3 ans, un lieutenant ou un major qui a de pouvoir et qui détourne de l'argent, dès qu'une guerre devient financière, dès qu'il y a des officiers qui commencent à avoir de l'argent, la guerre n'en finit pas. Donc cette relève, c'est important. Je pense que ça va changer. Il y aura de nouvelles énergies, de nouvelles équipes. Il y a des soldats qui étaient loin de leur famille pendant plusieurs années qui ne pouvaient pas mieux combattre. Donc ça va être un de points positifs qui pourra faire qu'en fait, on puisse en fait comprendre qu'est-ce qui se passe autour de cette nébuleuse-là.
Mieux comprendre ce qui se passe à Béni. Merci Rodriguez Katsouva pour toutes ces informations. On va écouter Monsieur Jean-Louis Benga. Monsieur Jean-Louis Benga, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal des auditeurs, Jean-Louis.
Merci beaucoup, Madame Hartmann.
Est-ce que vous pouvez couper? Vous avez un kit main libre ou un haut-parleur, Jean-Louis, non? Votre radio d'allumer, non?
J'éteins le haut-parleur, oui.
Voilà, ce sera plus confortable pour nous-mêmes et pour les autres auditeurs. Jean-Louis, c'est parfait, ça fera l'affaire. Ça vous surprend, cette revendication de l'État islamique? Quel regard? Comment l'analysez-vous?
Ça peut me surprendre, ça ne me surprend pas. Le Congo est devenu la jungle, hein, la jungle où tout le monde peut faire n'importe quoi depuis Kabila et ça continue avec Félix Tshilombo. Moi, je suis surpris qu'après avoir entendu la déclaration de Félix Tshilombo, en disant que qu'elle est partie à Béni, en disant que qu'il n'avait plus besoin, il n'avait plus besoin, que les Congos n'avaient plus besoin, que lui, c'est pas les Congos, que lui n'avait plus besoin de milices d'autodéfense comme Mai Mai dans les Kivu. Tout de suite après, il y a eu cette attaque-là. Ben, il faudrait que Tshilombo puisse nous expliquer, parce que les Mai Mai se sont opposés contre le force ougandaise et rwandaise et voire même burundaise qui voulaient occuper cette partie du territoire congolais. Ces gens se sont battus et voilà un Tshilombo qui part là-bas sans, je sais pas, mais ce monsieur-là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il fait une déclaration, écoutez, il n'avait pas plus, le Congo n'avait plus besoin de fausses autodéfense. Mm. Or, ces fausses autodéfense là, ils défendent les territoires congolais. Face à l'incapacité.
Si je me souviens bien, Monsieur Benga, Jean-Louis Benga, le président congolais disait justement, voilà, on n'a plus besoin de milices d'autodéfense parce qu'on va avoir des forces de l'ordre mieux équipées, mieux, plus performantes.
C'est du mensonge.
Ah.
Quelle force de l'ordre mieux occupée, mieux performante, alors qu'il vient d'avoir le pouvoir il y a même pas 3 mois, et ensuite il n'a même pas le commandement au sein de l'armée. Vous savez, dans un pays, lorsqu'on est élu, on essaye d'apporter des corrections au niveau de la direction de l'armée. Mais il est là à la tête de l'armée avec les mêmes forces que Kabila avait laissées. Oh, vous savez bien que l'armée congolaise est inféodée par des officiers rwandais. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas se les cacher. Je pense que le débat est ouvert.
Nous devons le débat est toujours le même. Le débat est toujours le même. Mais on va. Mais merci Jean-Louis hein, de votre intervention. J'entendais Rodriguez qui brûlait d'envie de vous apporter une réponse. Vous entendez hein, ce que dit Jean-Louis. Finalement, voilà, qu'est-ce que le président Tshisekedi peut faire. Il vient d'arriver. Il n'a pas la main mise. Qu'est-ce qu'en pensez-vous?
Ce que je voudrais dire, je ne sais pas si l'ami l'auditeur est informé. En fait, c'est que Félix Tshisekedi déjà à partir du mois de mars, la solde des militaires a été revue à la hausse. Il a exigé que 20 000 francs congolais soient ajoutés pour les policiers et les militaires. Ils ont été, c'est déjà quelque chose.
C'est concret, c'est un acte concret.
C'est un acte concret qui s'est déjà matérialisé. Ils ont reçu leur dernière solde. Ils ont reçu avec cette augmentation là. C'est déjà quelque chose de fait. Il y a déjà aussi la relève de ces troupes qui étaient là. C'est déjà aussi quelque chose d'autre. Et ce que je voudrais que les gens comprennent, moi, je n'ai jamais été, et même tout, en tout cas tout mon entourage, on n'a jamais été pour des groupes d'autodéfense. Parce que ça n'a jamais apporté des choses positives. Ce même groupe Maïmaï qui sont en train d'attaquer des équipes de riposte de Ebola dans la ville de Boutembo. C'est un groupe de jeunes, malheureusement fanatiques, qui sont facilement mentis. On leur dit, on les badigeonne d'eau et on leur dit que c'est un antibal, alors que c'est pas vrai, ça peut pas se faire. Donc pour moi, je suis contre d'abord ce groupe d'autodéfense Maïmaï. Vous voulez défendre le pays? Intégrez-vous dans l'armée. L'armée est en train de recruter chaque 4 mois, la police, l'armée recrute, allez défendre. Donc je n'ai jamais été pour ça parce que ça fait plus des bavures que des solutions. Donc, si vous voulez défendre le pays, allez dans l'armée. Et après, je peux le redire, c'est un problème très majeur. Ce serait biaisé de penser qu'un président seul pourrait le faire. Il faut que la communauté locale puisse s'intégrer aussi à la lutte.
Justement, alors Jean-Louis évoquait peut-être le rôle de l'armée, le fait que le président congolais ne maîtrisait pas forcément l'ensemble des FRDC. Vous en pensez quoi? Je vous fais réagir sur les FRDC, parce qu'il y a Kevin aussi qui nous dit, hein, de toute façon, nous, on n'a pas peur des terroristes, je fais confiance à l'armée. Alors voilà.
Voilà.
Est-ce que l'armée est équipée et est-ce que Félix Tshisekedi a le contrôle de l'armée?
Alors, l'armée a montré certaines failles depuis tout ce temps. Ils étaient plus de 20 000 qui se battaient depuis
tout ce temps. On a
commencé
l'émission en disant que certains responsables des FRDC étaient accusés d'être responsables des massacres à Beni. Voilà.
Il y a eu un procès à Beni où des militaires, ils ont des officiers qui ont des éléments fictifs, des officiers qui ont détourné de l'argent. Donc il y a une et après aussi il y a la FIB, donc c'est une force internationale des Nations Unies qui est là avec les armées et qui tous les deux pendant tout ce temps n'ont pas réussi à empêcher. Il y a eu des attaques dans le Kijé même de l'armée à Beni au nord de la ville de Beni. Ce qui veut dire que on ne comprend pas très bien pourquoi l'armée n'y arrive pas. Mais ils justifient cela par le fait que c'est une guerre asymétrique. On leur concède ça, mais la population donne des informations. La plupart du fois, la population commence à avoir maintenant peur de donner des informations. Il y a eu, j'ai répertorié plus de 4 attaques où la population avait annoncé des heures avant. On voit des mouvements suspects par ici, mais l'armée n'a pas intervenu. Aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. L'armée collabore mieux avec la population. La population donne des signaux et l'armée arrive à sauver le meuble quand il y a feu. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Je pense qu'on peut accorder ce petit crédit là à notre armée. Et cette relève, moi,
et sur la mainmise, le contrôle de l'armée par le président.
Le président, il reste le chef des armées. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, voilà, Kabila avait déjà mis 3 zones de défense, et il y avait ces personnalités. Il y a Tango Fort qui a une zone de défense qui est citée dans le trafic de bois illégal, qui est citée dans plusieurs trafics, même si cela n'a pas encore été prouvé. Mais plusieurs rapports, l'enquête de Global Witness qui le pointait récemment avec certains exploiteurs chinois, on peut le dire, mais le président est le chef des armes, c'est le commandant suprême. Je pense qu'il a un certain pouvoir, même s'il n'est pas encore assis, parce que il ne maîtrise pas encore les droits. C'est 4 mois quand même. C'est dans 4 mois, il y a beaucoup de problèmes sur lesquels le président doit intervenir rapidement. Je pense qu'on peut lui donner un temps, on peut lui donner un bénéfice du doute, laisser un peu de temps. Déjà qu'on relève les troupes, moi je trouve que c'est une voie de solution par rapport à la crise de Beni.
C'est-à-dire qu'enlever les militaires qui se trouvent là-bas et les faire relever par d'autres militaires. Voilà.
Voilà.
Merci Rodriguez Katsuva. Vous voulez intervenir, chers auditeurs, 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Il y a Maurice John 2 sur Facebook qui nous dit donc on chasse l'État islamique en Syrie, en Irak, et c'est en RDC qu'ils veulent s'établir. Et puis on fait coucou à Marco qui doit être du côté d'Abidjan sur le bord de la lagune, qui nous envoie un petit message, qui nous souhaite un bon début de semaine. On l'embrasse aussi. Mamadou, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour Radio Africa, les auditeurs.
Bonjour Mamadou, on vous entend très très bien Mamadou.
C'est pas Mamadou, c'est Amadou, parce que Mamadou ça fait dire Mohamed, Amadou ça fait dire Ahmed.
Toutes mes excuses, en fait notre réalisateur fait le standard en même temps, vous savez c'est pas évident pour lui. Donc il essaye de deviner vos prénoms, donc excusez-nous Amadou, bienvenue JDA.
Non c'est pas grave, mais c'est pas grave, l'erreur est propre à humaine. Bon le problème, moi j'interviens, c'est vrai que je suis pas congolais, je suis sénégalais, musulman, le 90% des Sénégalais c'est des musulmans. Effectivement, mon point de vue ça n'engage qu'à moi, parce qu'il y a même certains musulmans qui veulent que la religion musulmane soit politique, ou la politique du prophète Alessandre veut de fin carrière politique. Moi, je ne trouve pas aucune religion se mêler avec la politique. Mmh. La politique, c'est une pression. C'est l'obligation de conscience. Quant à la religion, il n'est pas une pression, une obligation de conscience. Bon, chacun a sa compréhension.
Est-ce que vous pensez que l'État islamique est une expression de l'islam politique, mon cher Amadou, pardon?
L'islam politique a été spéculé, inventé. Le prophète n'a jamais dit que sa religion, il est politique. Si c'était ça, il allait faire la politique avec Abu Jahl. C'est qu'ils étaient contre,
qu'est-ce que vous pensez, Amadou? Amadou, parce que Amadou, on va pas faire de la théologie aujourd'hui, bien que ce soit de lundi de Pâques. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces franchises États islamiques qui pullulent un peu sur le continent, hein. Ils sont au Daesh, est présent en Libye, Boko Haram, au Nigeria, au Mali. Également, on parle un peu aussi de la Somalie. Est-ce que ça vous inquiète ?
Oui, non, mais ça m'inquiète parce que ça respecte pas la religion. Celui qui respecte sa religion, effectivement, c'est à l'intérêt de la communauté musulmane. Le califat, on a Daesh, le califat, c'est comme le pape. Est-ce qu'on prend ? Il n'est pas, est-ce qu'on prend ? Il représente la religion avec la parole de Dieu, mais c'est pas que la politique culturelle. C'est sur ce côté. Si les musulmans s'ils respectent leur religion, leur foi, ils ne devraient pas permettre que sa religion, est-ce qu'on prend, soit mélangée avec la politique. La zakat va être l'impôt. Eux-mêmes, est-ce qu'on prend, ils peuvent pas. La
vous dites il faut combattre ces groupes-là, si j'ai bien compris, Amadou. Hein.
Non, mais ils salient l'islam. Mais c'est les musulmans d'intervenir. C'est la responsabilité des musulmans. Il faut dire ce qui se passe. Mm. Une bonne continuation, tout simplement. Ceux qui servent de la religion pour des fins politiques. Mm. C'est pas ni le judaïsme, ni le christianisme. C'est les musulmans, des républiques islamiques. En même temps, ils disent que ceux qui font des attentats, c'est des fous. Mais ils mentent aux gens. C'est des mensonges. Mais ils disent la vérité. Une bonne continuation.
Merci, Amadou. Amadou qui est pas content de l'utilisation qui est faite de l'islam. Je redonne le numéro, si vous voulez intervenir. 33 1 55 07 58 00. Je crois qu'on a Tadé en ligne, mais je suis pas sûr du prénom. Tadé ?
Oui, bonjour madame.
Bonjour, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Ok, merci beaucoup.
Ah, on vous écoute.
Alors, je voulais intervenir par rapport au sujet du jour. Pour moi, selon moi, vous savez, bon, comme a dit votre invité, je sais pas, je l'ai pas suivi tout au début, mais je l'ai suivi en cours de son intervention. Mais le problème, c'est ce que j'ai retenu, c'est que l'État islamique, ils sont là au Congo depuis un certain temps, vous voyez. Ils sont là, ils faisaient leurs opérations, mais jamais ils ne se sont attaqués officiellement et fait des revendications comme ça officielles. Mais s'ils arrivent aujourd'hui à faire ça, selon moi, et selon, bon, ici, je ne suis pas le seul à le croire peut-être, mais c'est la faute à Tshilombo, président Félix. Vous savez, madame, le fait que Félix est allé aux États-Unis faire des déclarations comme quoi il a besoin d'une aide des Américains pour lutter contre l'État islamique, les terroristes, comme il a dit, c'est ce qui a déclenché que ces gens-là puissent attaquer.
Mais la revendication a été intervenue après le séjour aux États-Unis. J'ai du mal à comprendre.
Je vous dis ceci. Parce que Félix est allé aux États-Unis faire des déclarations comme quoi il a besoin d'une aide des États-Unis pour lutter contre le terrorisme. C'est à ce moment-là que.
Pour lutter contre les groupes armés, oui.
C'est à ce moment-là que ces gens-là se sont mis à attaquer le Congo. Vous voyez? Mais parce qu'avant, ils étaient là au Congo, mais ils n'attaquaient pas la police ou l'armée congolaise. Ils étaient là.
Ils attaquaient les civils, quoi.
Déclaration. Ça a vérifié aussi. Ils attaquaient les civils, ça a vérifié. Bon, c'est à partir de ces déclarations aux États-Unis que ces gens-là ont attaqué les militaires congolais. Vous voyez?
Selon moi. Merci. Pour conclure.
Je voulais rajouter un truc. C'est que votre invité, quand il dit que le groupe d'autodéfense, les Maï Maï, il les appelle les fanatiques, c'est faux. C'est grâce à ces gens-là que notre pays résiste encore la partie de l'Est.
Donc vous êtes en faveur des groupes armés.
Voilà. Voilà. Si ni c'était la présence de ces gens-là, l'Est du pays serait déjà parti. Alors, il est important pour nous que ces gens soient là.
Merci, Tadé. Voilà. Merci, Tadé. C'est intéressant. Hein, Tadé est à peu près sur la même ligne hein, que l'auditeur précédent, Jean-Louis Mbenga, qui fait finalement du président actuel, du nouveau président, le responsable de ce qui se passe. Il y a beaucoup de confusion peut-être dans les propos de Tadé, de désinformation aussi.
Oui, il y a beaucoup de choses non comprises. Donc l'État islamique n'a pas été au pays depuis tout ce temps. C'est plutôt les ADF qui étaient là depuis 25 ans. Et c'est ce que j'ai dit. Donc je pense qu'il
n'y a pas de mercenaires, combattants étrangers qui viendraient comme ça de Syrie ou d'Irak en RDC. On est bien d'accord.
Voilà. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a certains Somaliens, Kenyans, Tanzaniens, Ougandais, Rwandais qui ont été présenté à la population comme et a intervenu. Certains rescapés ont reconnu les langues ougandaises parmi les gens qui les ont pris. Donc je ne refute pas qu'il y a des gens, des opportunistes, c'est des commerçants qui essaient peut-être de trouver de l'argent, d'essayer de...
Des commerçants de la terreur, quoi.
Voilà, qui essaient de retrouver de l'argent parce que le recrutement, comment ça s'est fait? On promet du travail, on promet de payer entre 300 et 400 euros le mois à des gens. Ces gens viennent travailler et c'est une fois arrivé là-bas, en tout cas c'est les témoignages que donnent toutes les personnes qu'on a capturées dans ces soi-disant ADF. Ils disent on m'a promis un boulot dans le Rwenzori, dans les montagnes. J'y vais en montagne et après on me dit non, tu vas te battre plutôt. Donc c'est un peu ça, c'est des gens qui essaient de trouver.
C'est une logique qu'on retrouve beaucoup hein, sur l'ensemble du continent, on retrouve ça aussi chez Boko Haram, c'est comme ça qu'on recrute aussi finalement. Ces groupes-là prospèrent aussi sur la faiblesse des États, le désœuvrement des jeunes.
Voilà, l'oisiveté des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui se font facilement manipuler. Mais moi, je trouve peut-être que, oui, c'est une hypothèse. On se dit que peut-être que l'État islamique, comme ils ont peut-être les yeux sur les États-Unis, le président est parti aux États-Unis, il a dit qu'il allait, mais c'est pas aujourd'hui. Le gouvernement congolais a commencé à le dire depuis les débuts que c'était des attaques islamistes.
Kabila l'a déjà dit.
Lambert Mende l'a dit plusieurs fois de plusieurs interviews que j'ai eu même avec lui. Il l'a dit. Donc, ce que je veux dire, c'est opportuniste. Moi, je l'ai dit que pour l'État islamique, c'est opportuniste d'essayer de se faire. Ils ont dit qu'ils étaient au Mali. C'est pas leur première déclaration farfelue et ce sera pas la dernière, sûrement. Donc, voilà. Moi, je continue à croire qu'on peut donner ces bénéfices des doutes. Moi, je me suis dit que l'armée, déjà cette relève, c'est un grand pas. Les soldats, ils étaient stressés, ils étaient 4 ans sans voir leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants. Ils étaient 4 ans, ils étaient mal payés, ils étaient 4 ans, leur responsable s'était déjà fait un gros commerce. Ils vendaient du bois, ils détournaient leur argent. Ils sont partis, dès que le business sera fini, vous allez voir, les solutions vont commencer à venir. C'est exactement cela.
Il y a... One sur WhatsApp qui nous envoie un petit message hein, qui dit qu'il faut laisser votre affaire de laïcité en France. On n'a pas de laïcité avec Notre-Dame, nous ne sommes pas. Abrahamic nous dit One, je pense qu'il fait référence, parce qu'on a dit rapidement dans l'émission que le Congo était un État laïque, mais bon.
Ça c'est connu dans notre constitution. Je comprends pas. La liberté de religion et de pratiquer sa religion est garantie à tout le monde. Les chrétiens représente une majeure partie, la République démocratique du Congo d'ailleurs, j'ai vu une étude, d'ici 2060, aura beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. C'est une étude qui a été, je me souviens plus trop le nom, mais je l'ai revue et je suis en train d'écrire un article là-dessus. Ce n'est pas un problème de religion à République démocratique du Congo. Les musulmans ne sont pas du tout, d'ailleurs sont bien, ils ont des meilleures écoles, ils ont des universités en République démocratique du Congo. Les chrétiens aussi sont respectés. Et maintenant, il y a des groupes religieux qu'on appelle des églises de réveil qui sont une sorte de protestants, mais qui sont des églises de réveil et qui a donc la laïcité en République démocratique du Congo. Congo n'est plus en débat. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas à négliger. On ne peut pas négliger cette affaire. Peut-être que l'État islamique peut repenser, comme j'ai dit, au Congo, c'est un terrain très accidenté, très maîtrisé par les ADF. Peut-être que ça peut être, et comme on a appelé à cette migration vers l'Afrique centrale, ça peut être peut-être une occasion pour l'État islamique de se refaire.
Après la défaite au Moyen-Orient.
Oui, ouais, au-delà des radars et tout. Mais après, voilà, il ne faut pas penser que c'est très opportuniste, sincèrement.
Merci beaucoup Rodriguez Katsouva d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de tout ça.
Je t'en prie Stéphanie Atman, et je suis content que le Congolais continue de suivre cette émission et je souhaite votre implantation en Afrique très bientôt.
On est déjà à Abidjan, on arrive bientôt à Brazzaville normalement, donc comme ça vous pourrez nous écouter quand vous serez à Kinshasa mon cher Rodriguez. Je rappelle le site sur lequel on peut vous lire, c'est notamment à Bari RDC. Merci à tous chers auditeurs de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs, notre compte Twitter, c'est @jauditeur, ou alors le répondeur d'Africa Radio, c'est le 33 1 55 07 58 05. Laissez vos messages, 33 1 55 07 58 05. Restez bien à l'écoute d'Africa Radio. À demain.